Radio Open FM. L'Europe et nous, infos, conseils et actu. Passez à l'heure européenne avec la Maison de l'Europe en Limousin.
Et il est avec nous, évidemment, comme chaque semaine, Jean-Pierre Foultier, bonjour.
Bonjour.
Allez, troisième épisode de notre série intitulée « Un art européen du théâtre ». Nous sommes allés en Grèce, nous sommes allés chez Shakespeare, et aujourd'hui donc ?
Nous avons assisté aussi à des farces du Moyen-Âge, nous avons fait une petite visite à Molière et aux dramaturges du XVIIe siècle français pour montrer comment, au fil des temps, s'était forgé un théâtre européen bien différent de celui que l'on a pu rencontrer sur d'autres continents, en particulier en Asie. Et aujourd'hui, je voudrais montrer comment ces formes bien établies au XVIIe et XVIIIe siècle ont évolué vers le théâtre européen actuel.
Bon, on frappe les trois coups et on vous écoute.
Nous sommes au XIXe siècle, ce siècle marqué, j'ai eu l'occasion d'en parler à plusieurs reprises à ce micro, par le mouvement romantique qui balaye l'Europe de cette époque et qui imposera un nouveau genre théâtral, le drame romantique. En rappelant que le romantisme est une rupture initiée par la jeunesse européenne cultivée. Une jeunesse fougueuse qui ne se sent pas à l'aise dans son époque et qui refuse l'ancien monde, déjà. Et donc, dans l'univers théâtral, le théâtre classique du XVIIe siècle avec ses règles et ses contraintes. On passe donc par-dessus la tête des Racine et Corneille et on va prendre pour modèle le vieux Shakespeare dont les pièces, j'en ai beaucoup parlé la semaine dernière, s'adressaient à un public populaire et se caractérisaient par une totale liberté de ton. Le drame romantique, ce sont donc des pièces au sujet grave, mais dans lesquelles l'action prédomine, même le crime, et où l'on peut trouver parfois des scènes burlesques. En Allemagne, ce sont les drames de Goethe, comme Faust ou de Schiller. En Angleterre, ceux de Byron. Et en France, à côté de la figure très romantique d'Alfred de Musset, c'est bien sûr celle révolutionnaire de notre Victor Hugo, dont en 1830, la première de la pièce Hernani, dans un théâtre parisien, donne lieu à une émeute que l'on désigne sous le nom de « Bataille d'Hernani ». Voici les faits. Victor Hugo est là, mais avec lui aussi toute une troupe de jeunes gens échevelés et agités, et en face d'eux, les adversaires de son théâtre d'avant-garde. C'est un chahut monstre, mais la pièce est finalement jouée et reçoit les ovations du public. Cette anecdote montre bien qu'en France, comme partout en Europe, le théâtre est devenu un moyen d'exprimer des idées et un lieu d'affrontement idéologique, et ceci jusque dans la lointaine Russie.
La Russie qui était encore celle des tsars.
Tout à fait. En Russie, mais aussi dans l'Europe de l'Est, où le renouveau théâtral accompagne la prise de conscience nationale dans une exaltation de la patrie, de la liberté des peuples, comme en Pologne, contre l'envahisseur russe. Et en Russie, justement, le théâtre deviendra une arme politique. À l'époque soviétique, en participant à l'agitprop, ces spectacles-débats destinés à renforcer l'identité communiste.
Mais bon, le théâtre reste quand même avant tout un spectacle de divertissement.
Oui, rassurez-vous. À côté des formes poétiques, littéraires, politiques de certaines pièces, le XIXe siècle voit se développer un théâtre populaire qui était apparu dès le siècle précédent avec ce que l'on appelait le drame bourgeois et qui se prolongera dans le mélodrame. Ces spectacles construits souvent autour de scènes de crimes ou de drames familiaux, aptes à provoquer des frissons et faire verser des larmes. L'autre versant du théâtre populaire, c'est le vaudeville, cette comédie légère basée sur le comique des situations et les répliques drôles qui fleurira sur les boulevards parisiens, d'où le nom de théâtre de boulevard, ces pièces qui ont fait, peut-être certains s'en souviendront, il y a quelques décennies, la joie des soirées télévisées de l'émission Au théâtre ce soir. Ce sont les Français qui, dans la deuxième moitié du XIXe siècle, deviendront les rois du genre avec des auteurs comme Eugène Labiche, un chapeau de paille d'Italie, entre autres, et Georges Feydeau, la dame de chez Maxime, par exemple, qui égratigne les mœurs de la petite bourgeoisie de l'époque.
Donc on est sur un théâtre multiforme, véritablement, mais qui a continué ensuite au XXe siècle.
Oui, même si l'on ne joue plus beaucoup de mélodrames. Mais le théâtre de boulevard a toujours ses adeptes inconditionnels et le théâtre, disons, sérieux, a trouvé à la fin du XIXe et tout au long du XXe siècle des représentants éminents. Dans les pays scandinaves, ce sont des auteurs comme le Norvégien Henrik Ibsen ou le Suédois August Strindberg qui proposent un théâtre exigeant, empreint souvent de pessimisme. En Russie, c'est bien sûr le grand Tchekhov, dont les pièces, La cerise et La mouette, entre autres, traduisent les inquiétudes de la société russe et on est la veille de la révolution d'octobre. En France, le théâtre devient philosophique, porteur d'un mysticisme religieux chez Paul Claudel, ou à l'inverse, marqué par le matérialisme d'un Jean-Paul Sartre, avant que n'apparaisse le théâtre de l'absurde d'un Ionesco ou d'un Beckett. Mais la nouveauté au milieu du XXe siècle, c'est la montée en force de l'idée de mise en scène.
Ça veut dire que la mise en scène, ça n'existait pas auparavant ?
Pas vraiment. C'était l'auteur qui, dans le texte, donnait les indications de jeu. Et les stars de l'époque, en France, Talma ou Sarah Bernhardt, déclamaient plus qu'ils ne jouaient. De plus en plus, le metteur en scène s'affirme comme un artiste créateur. Et même s'il reprend des pièces classiques comme celle de Molière, il les recrée en quelque sorte. Et il n'est qu'à comparer certaines mises en scène récentes pour voir que le Tartuffe de Roger Planchon en 1967, par exemple, n'a pas grand-chose à voir avec celui d'Aria Mnouchkine qui, en 1995, a choisi de situer l'action dans un Orient intégriste. Une autre nouveauté dans ce XXe siècle, ce sont les échanges entre artistes de différents pays qui participent à cette identité théâtrale européenne. Ce qui me donne l'occasion d'évoquer ici l'Odéon, ce vieux théâtre parisien qui, dans les années 1970, est devenu le théâtre de l'Europe. Première institution théâtrale européenne qu'un pays de l'Europe ait offert à l'Europe, selon la formule de Jack Lang, et qui a été dirigé par l'Italien Giorgio Streller, puis par l'Espagnol Luis Pasquale, entre autres. En disant aussi, pour finir, que la Commission européenne soutient ces échanges entre artistes dans le cadre de son programme Europe Créative.
Bon, et petit à petit, on est arrivé avec vous jusqu'à notre époque, donc il nous reste pourtant une quatrième et dernière chronique sur cette série, ce sera dans 2 semaines.
Dans laquelle nous verrons comment le théâtre reste en Europe un art majeur, même s'il a dû subir, mais disons sans trop de dommages, la concurrence du cinéma.
Et on fera le point donc, non pas la semaine prochaine, mais la suivante. Il va falloir être patient, mes amis. Et d'ici là, bonne quinzaine, Jean-Pierre.
Alors, bonne quinzaine à tous.
C'était l'Europe et nous, info, conseils et actu. Pour construire ensemble la communauté européenne de demain. Avec la Maison de l'Europe en Limousin, 51 avenue Georges Dumas à Limoges. 05 55 32 47 63 et sur le www.europe-limousin.eu.